Adieu, badge.
Le souffle du terrain.
Radio Badge, 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 le souffle du terrain.
Bienvenue dans ce podcast Le Souffle du Terrain spécial Braderie de Lille où je suis allé rencontrer Jérôme Grindorge, directeur du département des transversalités chez Université Polytechnique Hauts-de-France et responsable pédagogique de la première licence dédiée aux sportifs de haut niveau. Jérôme est un ami badgique depuis 2018 et cela faisait longtemps qu'il m'avait invité pour venir passer un moment dans cette belle ville de Lille. Et quoi de mieux que la Braderie, cet événement internationalement connu qui accueille 2 500 000 personnes qui viennent pour chiner, pour manger, beaucoup de moules frites bien sûr, boire, s'amuser durant ce premier week-end de septembre. Ce podcast vous propose une balade au cœur de la Braderie pendant laquelle j'interviewe Jérôme sur la reconnaissance, les badges bien sûr, et les projets qu'il mène dans sa structure. Il nous parlera d'ailleurs en fin de podcast d'un projet autour du mécénat de compétences, un projet financé par la région Hauts-de-France. Une région qui fait beaucoup pour soutenir les initiatives de reconnaissance ouverte et de badge numérique. Et aussi un collectif Badgeons les Hauts-de-France qui vous a été présenté dans le Badge Show numéro 2. N'hésitez pas à réécouter Sandra Villain et Chris Delepierre sur notre site web. On est parti avec Jérôme directement en balade. C'est parti.
Nous marchons... actuellement dans un quartier de Lille. On est où, Jérôme, ici ?
On est dans le quartier de Fifcaille.
C'est l'histoire d'une métamorphose. Fifcaille, 25 hectares de friches aux portes de Lille. L'usine gigantesque produisait autrefois des ponts et des locomotives. Elle doit aujourd'hui fabriquer du vivre ensemble, en misant sur la cuisine.
Et les entrepôts qui servaient à cette fabrication ont été réhabilités avec un énorme projet d'habitat participatif, de présentation de petites cellules avec du circuit court, la création du lycée international hôtelier qui a également permis à ce quartier très populaire de se gentrifier, ce doux mélange un peu avec l'énergie de ce que tu peux... assez comprendre et assez ressentir là peut-être facilement de cette forme de mixité. Et puis le truc un peu rigolo, c'est de voir des gamins de 14-15 ans sortir en costard tous les matins de la station Marbrerie pour aller à ce fameux lycée hôtelier. Une brasserie aussi qui s'est créée là, une brasserie de quartier avec une petite bière qui s'appelle la Locomotive. Voilà, là on se dirige vers le métro Marbrerie.
Oui. Et on va aller donc faire un tour à la braderie
ouais,
de Lille.
La braderie.
Qui est mondialement connu.
Ouais. Puis là, je sais pas si c'est ta présence, mais écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce beau soleil.
Et oui, chers auditeurs, il fait beau. On a ressorti les chemises à fleurs.
Radio Badge.
Le souffle du terrain.
Donc là, on est en train de prendre le métro.
Ouais.
Il y a combien de lignes à Lille ?
Deux
lignes. Et on va aller
métro automatique depuis
Lille,
pas mal.
Lille-Flandre.
Ouais.
Là, on est dans les ambiances de gare, donc on vient de descendre à Lille-Flandre et on va direction rue de Tournai pour s'immerger dans la braderie. Alors, Jérôme, on est. On s'est rencontrés il y a quelques années autour des badges numériques. C'était, il me semble, en 2018. Hein, tu étais venu à Caen.
C'est ça, au Dôme, oui. Dôme à Caen.
C'était les premières formations qui étaient organisées autour des badges. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de t'intéresser à ce sujet en 2018 ?
Ben, en fait, j'étais... animé par, alors je pense que ça ne te surprendra pas, mais ma vie tout court, depuis que je suis petit, ma vie familiale maintenant, tourne autour de beaucoup de sport et de sport de haut niveau. Et on avait appris en 2018, je pense, c'était déjà ça, que les Jeux Olympiques allaient être à Paris en 2024. Et je trouvais qu'il y avait une réflexion à mener. Alors, je pense que toi comme moi, on a été biberonnés à des dispositifs VAE, etc. Et j'occupais des fonctions à l'époque à l'université, où à chaque fois qu'il y avait un sportif de haut niveau qui arrivait sur le campus universitaire, on m'invitait pour essayer de reconnaître ce que l'expérience et les pratiques des athlètes de haut niveau pouvaient valoir tout ou partie du diplôme. Donc voilà, ça c'était ma vie perso, ma vie pro. Et lorsque alors je sais plus comment ça s'est passé, je pense que j'ai découvert ça sur une actu ou un forum, qu'il y avait des dispositifs qui émergeaient en France sur la reconnaissance à travers la partie badgeant les territoires. Voilà, c'est ça qui a créé le déclencheur de mes premiers contacts avec l'écosystème des Open Badge.
Une cuillerée à soupe comme ceci. Ne jamais masser les varices. Vous faites un enveloppement, n'est-ce pas, soit avec un linge comme ceci ou légèrement tamponné.
Hein? Regardez ici. À quelle vitesse on dirait que la carotte est aspirée par l'appareil. Et vous savez pourquoi, braves gens?
Nous résorbons les varices à 80%.
7, 8, 9.
On a pu faire des crans descendants et puis des crans remontants. Or que les râpes en ferraille, il y a des crans dans un sens. Ça va deux fois plus vite, ça râpe, mais ça coupe pas.
Et voilà 10.
Et puis ce doux mélange entre les particuliers qui viennent ici exposer leur vieillerie. Et je pensais à ça tout à l'heure en disant que finalement quand on regarde ces objets-là, il y a une certaine forme de portée sur ce que cet objet-là a pu représenter pour les personnes qui le vendent. Et on parlait d'hier de l'introduction à un potentiel dialogue. Je pense que c'est aussi assez rigolo, cette histoire de braderie, où par des objets, des personnes se parlent pour essayer de porter sur l'objet une sorte de transmission. Voilà, je pense que je t'en parlais tout à l'heure, mais il y a peut-être un petit truc à rapprocher sur l'usage de seconde main et puis la reconnaissance.
Est-ce que tu recherches des choses en particulier?
Du tout.
Non, pas du tout. Tu n'es pas collectionneur?
Bah si.
Tu collectionnes quoi? N'inquiète pas, ça sera coupé au montage.
Océania les Augustins, qui est un hôtel là, du coin, c'est une réhabilitation art déco de l'ancienne banque Scalbert Dupont, qui a été réhabilité en un hôtel un peu atypique, avec un sauna qui est dans la salle des coffres. Donc tu te trouves au milieu des secrets et des interdits protégés. Ils ont mis ça sous glace, c'est magnifique.
Océania les Augustins. Et on est rue du Molinel. Alors Jérôme, là on va aller chercher à manger.
Ouais.
À part manger des moules frites, qu'est-ce qu'on peut manger ici?
En temps de braderie ou en temps...
Parce qu'on peut dire à nos auditeurs qu'on a mangé déjà des moules frites hier. Une recette incroyable, les moules au maroilles. Donc c'est quand même réservé à un public averti.
Ouais.
On est d'accord?
Ouais, carrément.
Oui, oui. Là, je pense que je ne vais pas reprendre des moules.
Une chope, une bière?
Non, plus.
Avec la voix toute douce. Non, pas là, non.
Ouais, je vais voir.
Un vendredi soir sur le Dol. On monte à bord, la vie est belle. Avec les gitans de la mer, c'est des gars bien, c'est comme des frères. Des moules au maroilles servis, Freddy la nuit, philosophie. Et dans la brume du canal, la bière coule, ça soigne le mal. C'est la balade de Gégé et Filou. On parle badge et de la reco surtout. Une petite Jeanlin parce que ça fait du bien. C'est la braderie. On boit
travaille à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. J'ai un passif d'enseignant et de responsable pédagogique dans les formations en STAPS. Tout ce qui prépare au métier, soit de l'éducation à motricité avec des principales sorties sur des concours de professeurs de PS, le management du sport et l'activité physique adaptée. Moi, j'avais je passais mon temps auprès d'étudiants afin de les présenter à ces fameux concours de recrutement. Et puis en 2017, donc juste avant mon passage au Dôme de Caen, j'ai créé le premier MOOC pour l'université et aussi le premier MOOC à destination des intervenants en milieu sportif.
D'accord.
Donc on avait déposé ça à l'époque sur FunMOOC. Et parce que dans ma vie perso, je passais pas mal de temps sur les parquets des salles de sport. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait peut-être là également dans le talent de l'exercice quotidien quelque chose qui manquait. C'est-à-dire des environnements aujourd'hui qui permettaient d'avoir quelque chose d'assez équilibré et de performant avec les outils numériques et des intervenants au milieu sportif qui n'avaient pas forcément cette épaisseur-là ou en tout cas qui essayaient d'optimiser leur travail de bénévole. Et donc m'est venu à l'idée avec mon collègue de toujours, là, Frédéric Cadiou, de créer ce premier MOOC. Donc c'est en 2017. Et on est en pleine transformation à l'université. Avant, l'université s'appelait Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Et on a migré sur un statut expérimental, un établissement public expérimental. Et le président a décidé de migrer vers un nom assez performant, Université Polytechnique Hauts-de-France. Et mes petites bêtises sur la partie innovation pédagogique et numérique a permis de développer une idée de est-ce que ce que tu faisais en STAPS, est-ce que ça pourrait pas être à un moment donné proposé à l'ensemble de l'université. Mm-hmm. Et donc voilà, un nouveau service, une DSI qui se split en deux. D'un côté le SI, de l'autre côté les usages numériques et l'innovation pédagogique. Et on m'a proposé donc en 2017 de m'occuper de cette sous-direction.
Très bien. Et donc, tu te formes au badge. C'est quoi l'idée derrière quand tu découvres ces outils?
L'idée est de porter à la connaissance des originalités de pratique. Mmh. Et donc, le bénévolat, et notamment le bénévolat sportif, on a affaire quotidiennement à de l'inventivité hors norme, à des personnes qui, sur des temps assez réduits, dans des espaces quelquefois assez curieux, arrivent à créer des choses assez incroyables. Et je me disais que ça, c'était pas forcément porté à connaissance. Donc tu vois, je voulais me donner l'occasion d'aller porter à connaissance cette inventivité du quotidien. Donc ça, c'était dans ma vie un peu de bénévole. Et sur le côté pro, je te le disais tout à l'heure, des athlètes de haut niveau qui revenaient à l'université pour faire valoir leur expérience de sportif de haut niveau et puis des moments un peu délicats que j'ai qualifiés de vertigineux où des personnes de 30-35 ans essayer de se raconter auprès d'un public qui était universitaire et essayer de témoigner ce que leur carrière de haut niveau leur avait apporté en termes d'expérience. Et je trouvais que, à la fois, de pouvoir déclarer l'inventivité du quotidien des bénévoles sportifs et à la fois reconnaître les expériences des athlètes de haut niveau permettait d'avoir au moins en tout cas deux objets, à la fois dans le bénévolat et à la fois dans le très haut niveau, qui permettait d'être peut-être dynamisé et supporté par un levier de la reconnaissance. Donc voilà toute l'énergie qui m'a fait rapprocher de cet écosystème-là. Et là, j'ai pu rencontrer mes pairs. Mes pairs, c'est-à-dire qu'effectivement, on parle beaucoup d'open badge, etc. Mais j'ai rencontré surtout des personnes qui avaient un socle hyper épais, hyper solide, sur une façon de renouveler le genre, sur la façon d'interagir avec les uns et les autres à travers cette histoire de reconnaissance.
Vous êtes sur Radio Badge et nous sommes dans la rubrique Le souffle du terrain. Le souffle du terrain, on dirait plutôt ici dans le Nord, et on parle badge et reconnaissance avec mon ami Jérôme Grindorge en arpentant les rues de la braderie de Lille.
Tout autour, les pavés brillent sous leurs pieds, les estaminets éveillés. Et quand la cloche sonne minuit, encore une Jeanlin, puis au lit. C'est la balade de Gégé et Filou. On parle badge et de la reco, surtout. Une petite Jeanlin parce que ça fait du bien. C'est la braderie. On boit, on mange, on rit. Le demain, la caboche en marmite. Mais la braderie leur met la frite. Ils parlent badge, talent et mérite.
On est donc en 2019. Voilà, comment est-ce que tu présentes tes idées à l'Université Polytechnique? Et comment est-ce que c'est accueilli à l'université?
Alors, quand tu... le but du jeu, comme n'importe quel nouveau projet, Philippe, c'est d'embarquer. Et pour pouvoir embarquer, il faut connaître les positions des personnes au moment où tu veux les, au moment où tu veux les embarquer. C'est des organismes historiques de formation et d'éducation. Et là où je travaille, l'université, c'est véritablement là où la marque de l'importance du diplôme rend son exercice le plus important, licence, master, etc. Conjointement à ça, je pense qu'on a été aussi rattrapé par des personnes qui, en formation tout au long de la vie, voulaient soit switcher, puis je pense que le moment du Covid, il y a eu pas mal d'initiatives en ce genre, c'est-à-dire ben, finalement, je ne me reconnais plus dans cette période-là de ma vie, et puis du coup, à qui je m'adresse pour éventuellement essayer d'aller me former et d'apporter un peu de consignation grâce à des savoirs pour pouvoir engager une nouvelle trajectoire. Donc ça, on a le Covid, et j'occupe à l'époque une fonction d'usage du numérique et d'innovation pédagogique, et je peux te dire que là, en termes d'accélération, de visibilité de ce qu'on pouvait apporter, on a été vraiment en marche forcée. Cette marche forcée, donc le Covid, des slasheurs, des personnes qui voulaient peut-être refaire un petit peu autrement leur nouvelle trajectoire professionnelle. Et je trouvais que l'université n'avait pas forcément de bonnes réponses à ce moment-là. En fait, on adressait toujours la notion de diplôme, on adressait toujours ces mêmes choses. Et les open badges, pour moi, ont été une période d'activité assez intéressante, conjointe à celle des micro-certifications. Donc je sais que je vais en hérisser plus d'un là, en faisant cette association-là. Mais ce qui m'intéressait, c'est de se dire que peut-être que l'université était peut-être un lieu historiquement ancré, je te le disais précédemment, mais qui pouvait peut-être se renouveler son genre à travers cette façon de reconnaître. Et une façon de reconnaître, c'est aussi de dire que l'université peut être le terrain pour pouvoir aller chercher quelque chose d'autre. Et cet autre-là, c'est d'accueillir des publics qui n'étaient pas forcément en formation initiale, mais en formation continue ou tout au long de la vie. Et comment on adresse ce dialogue entre une personne qui a pas mal d'expérience ailleurs qu'à l'université et qui voudrait se destiner sur justement une nouvelle trajectoire, c'est d'être en capacité de faire ce moment de discussion entre le témoignage d'une expérience, son potentiel en termes de reconnaissance et son atterrissage sur des contenus de formation. Donc ça, je l'ai présenté comme ça pour montrer que finalement l'open badge était peut-être un actif un peu dynamique, certes péchu, etc., permettant d'accélérer ce mouvement, de pouvoir reconnaître des personnes pour les faire revenir sur les bancs universitaires. Non pas que j'avais une intention d'augmenter le chiffre de quoi que ce soit, mais je trouvais que l'université pouvait justement gagner là à renouveler son genre.
Donc quand on amène les badges à l'université, oui. À quoi est-ce qu'on est confronté à ces problématiques de la part de l'institution qui peut-être va vouloir garder le contrôle de ces badges numériques?
Ouais, il y a ça. Ça a été perçu comme une idée originale de présenter des PV de jury en disant une sorte de portfolio un peu dynamique pouvant, à la fin d'un diplôme ou à la fin d'une année ou à la fin d'une évaluation, pouvoir témoigner de façon un petit peu originale ce que l'université donnait à voir.
Un peu comme le supplément ?
Il y avait de ça, mais il y avait surtout le fait de disposer d'un nouvel outil pour renforcer son côté émetteur. Donc en fait là, le premier mouvement, et je pense qu'il est encore assez présent, c'était de dire on va renforcer la visibilité de l'émetteur grâce à ce nouvel actif numérique. Et finalement, en faisant ça, on n'a rien inventé. On a reproduit quelque chose qui existait par ailleurs, mais qui tout d'un coup avait un nouveau format de visibilité. Donc je te rejoins parfaitement, c'est-à-dire qu'en fait la prise en main de cet élan de reconnaissance via les open badges ont finalement renforcé la position de l'émetteur et pas du tout la façon dont la personne qui pouvait recevoir le badge pouvait s'en emparer pour éventuellement en faire autre chose. Là, je te rejoins parfaitement. Donc ça, c'était ton premier élément de question. Le deuxième, c'était quoi ?
Le deuxième, c'était... il était lié au fait que c'est la reconnaissance reste aux mains de l'institution, c'est-à-dire que les badges sont... Est-ce que les badges à l'université restent maîtrisés par l'université, tant dans leur conception que dans leur mode de validation et d'émission ? Ou est-ce qu'il y a des initiatives qui sont laissées aux étudiants, aux enseignants ?
Alors, on va passer d'abord la période là.
Ça, c'est l'ambiance de la braderie. Voilà, on traverse un resto qui sert évidemment des moules frites avec une bonne musique pour accompagner. Hey, tu dis que tu veux briller, mais tu restes bloqué. Tu n'oses pas montrer ton talent, ton chemin, ton partage. Qu'est-ce que tu fais sans afficher ton badge ? Tout le monde a quelque chose à offrir. Un savoir, une passion, un sourire. Alors pourquoi tu caches ton visage quand un badge peut écrire ton passage? What you gonna do if you don't really want a badge? Qu'est-ce que tu vas prouver si tu refuses ton héritage? Show it, claim it, let the people know. Ton badge est la lumière.
Qu'on affiche, c'est une preuve, une vibe, un déclic. Chaque page est une histoire qu'on partage, une étape, une victoire, un hommage. Raise your badge up high, fais-le tourner dans le sky. Recognition in the groove, feel the power.
De la vie étudiante, c'est-à-dire qu'effectivement, bien évidemment, il y a là, principalement le temps passé à s'acculturer avec des ressources, des contenus, etc. Mais il y avait aussi également, et ça tu le connais comme moi, Philippe, la vie universitaire est faite de plein de choses. Elle est faite d'événements, de participations, elle est faite aussi d'associations étudiantes. Elle est aussi organisée avec des enjeux aujourd'hui sociétaux sur le climat, sur l'intelligence artificielle, sur l'accueil, etc. Et donc, le fait de pouvoir témoigner qu'un campus universitaire n'est pas simplement un lieu où j'attends une certification, mais peut-être aussi revendiquer ou permettre à des personnes de montrer quels sont les sujets qui m'intéressent. Un étudiant qui participe à la fresque du climat a peut-être envie de raconter ce centre d'intérêt. Et les open badges, là, pour le coup, étaient déjà un premier pas de côté par rapport à ce qui avait été pris initialement, c'est-à-dire une certification plus avec un petit actif numérique. Donc voilà l'initiative chez nous, étudiants, mais c'est toujours pareil. C'est toujours l'institution qui garantit l'association, qui garantit l'événement, qui garantit la communauté. Si ce n'est que cette vie-là, on peut en témoigner un peu différemment grâce à cet écosystème numérique.
Vous venez peut-être juste d'allumer la radio et vous vous demandez, mais quelle est donc cette rubrique ? Eh bien, il s'agit du souffle du terrain. Radio Batch se déplace et va rencontrer les acteurs des territoires, ceux qui font. Aujourd'hui, nous sommes avec Jérôme, un ami badgique, avec qui on se promène dans les rues de la braderie de Lille et on parle open badge et reconnaissance.
Oui, en fait, quand on venait dans une braderie, je te le disais tout à l'heure, devant des objets qui finalement créent le dialogue entre la personne qui a vécu des choses avec cet objet et qui, dans le moment où il y a cet échange, cette transmission, cet achat, il y a toujours une petite histoire de continuer quelque chose avec l'objet. Et je ne sais pas si tu te souviens, Philippe, peut-être que tu avais lu ça. Tu sais, les travaux de Gibson sur la notion d'affordance, je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
Oui, je ne suis pas... Moi, Gibson, c'est plus les guitares, mais ouais. L'affordance, tout à fait.
Bon, je vais essayer de te faire, du coup, la suite en clé de sol. Sur l'affordance, de ce que j'en ai compris et la façon dont je l'explique, c'est la propriété que dégage un objet sur son utilisabilité. Donc en fait, quand tu regardes cet objet-là, hein, tu vois ce tabouret-là, oui. Potentiellement, tu te vois bien mettre ton petit fessier dessus, oui. Pour pouvoir le mettre au bord de la dolle, justement, pour aller chercher du gardon.
Coucou, bonjour les amis, c'est le magasin de Conac à Warneton, 20 km de Lille, 20 km de Moucron. Vous avez un super trépied, très stable, très solide, à un super prix. Je vous laisse aller.
Donc voilà, la notion d'affordance, c'est quand tu regardes un objet, tu reportes sur lui un potentiel d'utilisabilité. Mm-hmm. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être une petite déviation à faire avec la notion, cette fois-ci, d'accordance. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses.
Cette fois-ci, rejoins mon univers musical.
En regardant un individu, je serai en capacité, grâce à son capital de reconnaissance, de porter sur lui un potentiel d'agir. Et je trouve ça assez intéressant de pouvoir rapprocher cette dimension écologique du vivant à travers les objets et une façon de pouvoir considérer l'individu avec son potentiel d'agir. Et en fait, la reconnaissance, c'est quoi ? La reconnaissance, c'est de pouvoir porter dans cette transaction entre la personne qui reconnaît et la personne qui est reconnue, finalement quelque chose, une forme de respect dans un premier temps. Et systématiquement, cette reconnaissance est souvent associée à une situation où l'agir a un niveau d'efficacité ou un niveau de tranquillité ou d'impact. Et je trouve que le fait de pouvoir d'agir permettrait d'avoir une petite piste. Alors je ne sais pas jusqu'à où on pourrait faire, tu vois, l'appui avec les travaux de Gibson sur l'affordance, mais je trouve ça très pertinent, surtout là on est dans la braderie. Et ce n'est que des objets, en fait, qui racontent des choses, mmh. Avec un potentiel et puis surtout une histoire. Et là, tu vois, potentiel, histoire, raconter des choses, utilisabilité, certes, parce que c'est des objets. Je pense qu'il n'y a pas loin à penser à un nouveau concept, non pas d'affordance, mais d'accordance. Tu parlais de musicos, les musiciens qui s'accordent.
Oui.
Il y a peut-être quelque chose aussi sur l'harmonie. Et on parlait hier, j'ai plus la notion du temps grâce à Freddie Knight. Et c'est sur cette partie de faire de la symbiose. Et finalement, la reconnaissance, ça peut être ça aussi.
Oui.
Un dialogue qui apporte un levier de symbiose. Voilà. Et donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse. On échange de temps en temps avec Serge Rat, porté sur un individu. Voilà. Et je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. C'est-à-dire regarder un individu, dialoguer avec un individu et d'avoir une portée sur ce que je peux lui accorder. Mmh. Voilà, donc accordance. On est ici dans la braderie avec la notion de deuxième usage. Je pense qu'il n'y a peut-être pas loin ici à trouver quelque chose de symbolique dans notre parcours boulevard de la liberté.
Le cycle de vie du badge, je crois que moi ça me fait penser à deux choses, ce que tu me dis. Premièrement, l'histoire de potentiel, l'histoire de révéler les talents. Dans l'enseignement agricole, on essaye vraiment d'appuyer les usages de la reconnaissance, des pratiques de reconnaissance et le badge comme support de révélateur d'un potentiel. Donc, plutôt que de le voir comme une micro-certification de quelque chose, c'est plutôt le mettre ces outils aux mains d'abord des apprenants, mais aussi des enseignants, déjà comme outil de dialogue. C'est-à-dire que, notamment lorsqu'il y a beaucoup de projets, tu vois, dans l'enseignement agricole, artistique, de territoire, autour de l'agroécologie, autour des compétences psychosociales, et donc de faire de cet outil un moment de dialogue, concrètement, ça veut dire que le badge, il est co-construit entre les apprenants et les équipes pédagogiques. Et il représente une valeur co-construite. Notamment quand on aborde les questions de compétences psychosociales, soft skills, etc. Et nous avons un exemple concret qui a été mis en œuvre autour de la coopération au lycée agricole de C. Parce que la coopération, on ne peut pas certifier une coopération, en tout cas, faire porter la responsabilité à une personne de savoir si elle coopère ou pas. Ça dépend de son environnement, ça dépend des conditions qui sont mises en place, etc. Et donc, au lycée, ils ont travaillé avec les enseignants, c'est quoi la coopération, quelles sont les conditions, est-ce qu'il y a des niveaux de coopération. Et ce badge a été co-construit. Ce qui est intéressant, c'est que à la fin, le badge a été très peu demandé, donc ça fait l'objet de deux badges, mais le badge a été très peu demandé par les étudiants à la fin.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que le travail sur la reconnaissance avait été fait. Et donc le badge a été juste un prétexte, un support qui a permis ce dialogue entre apprenants et équipe pédagogique et qui a matérialisé ce dialogue. Et sur la question du potentiel, même chose, c'est que l'enseignement agricole nous reconnaît des capacités impossibles. On travaille notamment sur tout ce qui est accompagnement du projet personnel, professionnel, scolaire, à utiliser les badges pour ça, pour rendre visibles les aspirations des jeunes, des potentiels, et en utilisant non pas des échelles de notes ou de niveaux, qui se rapproche trop de nos pratiques formelles, mais plutôt de posture, la posture d'exploration, la posture de pratique, avec de l'aide, avec de l'autonomie, jusqu'à être capable de transmettre aussi aux autres mon expérience.
Très intéressant.
T'es sérieux ?
Ah oui, très
intéressant. Tu trouves ça très intéressant ?
Ah oui, très intéressant.
D'accord. Tu dis pas ça pour me faire plaisir ?
Parce que alors, il y a les deux. J'espère que ça te fait plaisir.
Bah oui.
Mais l'histoire de ne pas avoir besoin d'un actif témoignant de l'aspect transactionnel de la coopération, je trouve ça fabuleux.
Oui.
Je trouve ça fabuleux. Mais par contre, du coup, pour reconnaître le potentiel coopérant, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un état des lieux de cette capacité qu'a un individu à coopérer ? Comment je peux savoir rapidement que cette personne-là, ou comment je peux faire savoir à cette personne-là que je suis d'une nature coopérante ? Est-ce que ça témoigne du coup d'un aspect transactionnel, ou en tout cas d'un nombre de transactions qui permettra à un moment donné de, le mot n'est pas très joli, mais de qualifier mon niveau de coopérant ?
Eh bien, à mon avis, c'est un danger quand on essaie de parler de niveau de coopération.
Ouais.
Parce que quand on veut absolument mesurer les choses, eh bien, on va se poser des questions de critères. C'est toujours les limites. Au lycée agricole de C, c'était intéressant. Ils ont travaillé pendant 6 ans sur une expérimentation BTS sans notes formatives. Ils sont passés donc à l'approche compétence, à l'approche capacitaire chez nous. Mais entre le moment de changer les notes et d'arriver à l'approche capacitaire, les enseignants ont eu besoin d'avoir des niveaux, des degrés intermédiaires entre est-ce que la capacité est atteinte, entre non atteinte,
presque acquis.
Ils ont fait 5 Voilà, vous avez besoin de ces 5 plus, d'accord, plus, moins.
Alors, et du coup, est-ce qu'inversement, on ne pourrait pas du coup dire je suis capable de coopérer dans ce type de situation?
Ben oui.
Parce que là, c'est plutôt... C'est,
absolument.
C'est un peu différent.
C'est ce qu'apportent les badges, c'est le contexte. La question de est-ce que de connaître les savoirs, les savoir-être qui sont demandés, notamment dans le recrutement, d'en faire la preuve. À titre personnel, je ne pense pas qu'un certificat de bonne coopération peut apporter quelque chose. Par contre, la preuve par les réalisations.
D'accord, donc être en
capacité
de narrer.
De narrer, absolument. Alors là, on passe devant un premier tas de moules. Donc une des traditions de la braderie de Lille. Hein. D'ailleurs, je vais prendre une photo de toi, si tu veux bien.
Oui, et je vais faire la même chose.
D'accord. À côté du tas de moules.
Tu viens de dire combien je te donne pour sauter dans le tas de moules?
Bah, monte un peu les billets. Monte un peu les billets que t'as.
Ah bah, je sais pas. 20 balles, tu sautes dans les moules?
20 balles, je saute dans les moules?
20 balles, tu sautes dans les moules?
Ah, il pue quand même.
Ah, ça pue un peu. Regarde, ils sont là. 20 balles, ils sautent dans les moules? Allez, vas-y. Il y va. Il l'a fait.
Donc la question de j'en étais où sur la coopération?
En fait, on était en train de trouver que c'était une très 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 mauvaise idée.
Ah oui,
certifier
voilà, un badge, je sais coopérer. Un niveau.
On a embrayé en disant bah, c'est pas ça qu'on doit faire, c'est dire dans quelle situation je suis en capacité de coopérer.
Voilà. Ou un badge qui dit j'ai coopéré
là.
Et dans mon badge, j'ai de quoi raconter les projets dans lesquels j'ai coopéré. Et puis, je suis capable de narrer en disant qu'est-ce que j'entends par avoir coopéré. Qu'est-ce que
ça m'a apporté. Je ne pense pas, et ça sera peut-être d'ailleurs une transition assez douce sur le dernier projet sur lequel je suis investi, d'avoir justement des personnes qui m'aident à narrer. Et donc, est-ce que c'est pas facile, hein? C'est pas facile de...
Mais non.
D'exposer ça.
C'est d'ailleurs un travail qu'on fait, hein, d'accompagnement à la narration, de la pratique explicitée de nos apprenants.
D'accord.
Et ça rejoint, et c'est pour ça qu'on va faire cette transition, ça rejoint la question du changement de posture de l'enseignant formateur. Mm-hmm. Qui pourrait être un facilitateur de reconnaissance.
J'ai demain la caboche en marmite, mais la braderie leur met la frite. Ils parlent badge, talent et mérite, et la bonne humeur s'invite. Et Biloute, t'as vu le trésor? Un pins du LOSC, ça vaut de l'or. Et dans la foule des brocanteux, il rit encore, le nord est joyeux. C'est la balade de Gégé et Filou. On parle badge et de la reco surtout. Une petite Jeanlin parce que ça fait du bien. C'est la braderie. On boit, on mange, on rit.
Alors la région Hauts-de-France a mis en place des appels à projets qu'ils ont nommés Au fil de l'eau. Et c'est une aide. On appelle ça le D2AES, c'est le dispositif d'appui aux acteurs de l'enseignement supérieur en Hauts-de-France. Et c'est des appels à projets avec plusieurs priorités. Et j'ai déposé juste après le lancement de la licence full distancielle dédiée aux sportifs de haut niveau. Il me taraudait d'aller peut-être rapprocher ces athlètes-là au moment où leur trajectoire d'école du monde de l'entrepreneuriat. En disant que peut-être que ces talents sportifs pouvaient être à moyen ou à long terme des atouts un peu particuliers pour le monde de l'entrepreneuriat. Donc j'ai déposé un projet, donc je te le disais, à plusieurs priorités, et j'ai déposé un projet sur la priorité 3. Alors la priorité 3, c'est sur l'accompagnement des développements des compétences, les filières émergentes, voilà, toute la notion de prospective, etc. Un projet que j'ai appelé RECI, donc qui est le doux acronyme de la reconnaissance enrichie des compétences des individus et des talents, avec pour idée, donc c'est un projet de 24 mois, de 2 ans, donc avec un financement et une totalité du budget portée à peu près 200 000 euros, avec pour objectif de développer une application, alors pour être très, très précis, une application qui va permettre aux talents de se raconter compétents, alors pas forcément sur l'exercice même de leur talent, parce que ça, ils ont une fine habitude de pouvoir le faire, mais surtout d'identifier ce qu'ils font en dehors de leur terrain d'exercice du talent pour justement être aussi performants à échéance régulière. Donc ce projet-là va permettre, via l'application, aux talents de se raconter compétents et d'exprimer un besoin pour pouvoir être accompagnés sur le développement de leurs compétences et notamment celles qui se passent en dehors du terrain. Donc ça, c'est la première partie de l'application. Cette application donc, va permettre aux talents d'avoir des outils d'aide à la narration de ce qu'ils font en dehors pour être performants le week-end. Parce qu'on pense que le fait de pouvoir porter à connaissance ce qui se passe en dehors du terrain et qui est visible par tous, va permettre peut-être, en s'appuyant sur une sémantique liée à l'employabilité, de pouvoir connecter le monde de l'emploi, des PME, etc., à ce que les athlètes mettent en place justement pour exceller tous les week-ends. D'accord. Donc là, c'est la première partie de l'application. Un outil d'aide à la narration. Mmh. Le deuxième périmètre de cette application, c'est de permettre aux entreprises d'aller exposer les salariés pour aider la montée en compétence de ces talents. Donc, on a un dispositif en France qui s'appelle le mécénat de compétences et qui permet pour des salariés d'une entreprise à donner un peu de leur temps sur leur temps de travail pour accompagner des citoyens en territoire ou autre. Avec une virtuosité qui pourra intéresser rapidement les entreprises, qui est l'activation d'un levier RSE, parce que exposer ses salariés au sein d'une entreprise permettant de montrer leurs compétences en dehors de l'entreprise permet justement de monter sur le score RSE, de participer à une trajectoire assez intéressante, notamment d'être les premiers early adopteurs à la croyance d'une trajectoire pour que le talent puisse à un moment donné rayonner plein pot. Et la dernière chose, parce que ce n'est pas inintéressant également pour les entreprises, c'est d'activer le levier de la défiscalisation. Donc ce projet RECI va permettre de connecter un talent qui se raconte avec des salariés d'entreprise qui peuvent aider sur cette trajectoire-là. Voilà le projet RECI.
Et donc là, ce financement de 200 000 euros, c'est pour un POC, une preuve de concept.
Oui.
Et est-ce que vous avez déjà défini un cahier des charges?
Bien sûr.
Que, oui, et comment, quels sont les partenaires qui vont développer cette application?
Alors les partenaires, bien évidemment en premier lieu la région, les partenaires socio-économiques qui sont déjà engagés, soit dans notre université, parce que notre université dispose également d'un écosystème partenarial assez intéressant, mais qui pour le coup propose de façon classique des offres de stage.
Alors on va juste s'arrêter une petite seconde parce que là il y a une super ambiance, on a un DJ. On va faire profiter nos auditeurs. Wouh ! C'est ça aussi la braderie d'île, hein. C'est une ambiance incroyable, Jérôme.
Ouais. Et là, si on s'arrête à tous les moments festifs, on n'est pas rendu.
Allez, on va continuer.
Vous êtes toujours sur Radio Badge, nous sommes dans les derniers kilomètres de cette balade que j'effectue avec Jérôme Grindorge, directeur du département des transversalités chez Université Polytechnique Hauts-de-France. Et on est en train de parler du projet qu'il a gagné autour du mécénat de compétences.
Alors, je t'ai interrompu, donc on parlait des partenaires du...
Les parties prenantes, du projet. Donc, quelque chose d'assez particulier, c'est que les talents, qu'ils soient sportifs, artistiques ou autres, sont déjà dotés d'un écosystème de partenaires socio-économiques qui déjà investissent le champ de l'accompagnement du talent. Mais ça se passe contractuellement, la plupart du temps, sur la dimension du sponsor. Du sponsoring. Donc bien évidemment, des partenaires de structures sportives professionnelles s'investissent auprès des structures pour justement pouvoir faire un peu de sponsoring. Les universités disposent également, via le système des alumni, mais aussi des partenariats, je le disais juste avant, sur la partie stage, etc. Également, chaque université dispose également de partenaires socio-économiques. Et ces deux socles, ces deux périmètres, ces deux entités du réseau socio-économique, aujourd'hui, sont contactés principalement pour offrir des espaces et un peu de temps pour pouvoir s'acculturer ou montrer aux étudiants la réalité du monde professionnel. Si on reparle maintenant pour les talents, c'est comment un talent qui aurait besoin pour être performant le week-end, je vais donner quelques exemples, Philippe. Des désirs d'augmenter sa communauté sur les réseaux sociaux, d'augmenter son acculturation sur la partie inclusion ou développement durable, etc. Ça, ce sont vraiment des contenus universitaires intéressants et qui permettent aux entreprises et aux salariés de ces entreprises de s'investir auprès des talents sur des objets de montée en compétences. Donc alors, voilà les partenaires.
D'accord. Maintenant, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais donner un exemple concret? Peut-être que tu as déjà...
Ouais.
Je suppose réfléchi à ça, voire qu'il l'a écrit quelque part concrètement, une situation où ça peut s'exprimer.
Exactement. Parlons d'un principe assez simple. Un athlète, un talent aurait besoin de développer son site internet ou sa page web permettant de faire grossir sa communauté ou en tout cas d'aller s'exposer de façon un peu plus esthétique et de façon un peu plus efficace sur la toile. Ce besoin-là, les athlètes de haut niveau arrivent à se débrouiller un tant soit peu avec de l'accompagnement et de la formation autonome, mais auraient peut-être besoin d'un accompagnement spécifique sur la gestion de cette page web, par exemple en s'appuyant sur les compétences d'un community manager. Fort à penser que les boîtes de renom disposent déjà de ces compétences-là en interne. Un athlète exprime le besoin d'avoir un support. Les athlètes expriment le besoin d'avoir un support d'accompagnement sur le développement d'une page web, expriment via l'application ce besoin d'accompagnement. Une boîte voulant accompagner le talent sur cette compétence-là pourrait dédier sur temps de travail, un de ses salariés qui a été embauché dans l'entreprise justement sur ses compétences de community manager afin de donner un peu de son temps auprès du talent.
D'accord, on est dans le mécénat de compétences.
Exactement.
Mais avec une application qui va mettre en relation. Avec l'application qui va permettre de mettre en relation, d'identifier les demandes, les offres.
C'est ça, donc avec. Le mot est peut-être un peu barbare, mais. En disposant de ce qu'on appelle d'une ontologie sémantique, permettant le mariage...
C'est barbare, hein.
je vous le concède. Permettant de mettre en relation l'expression du besoin et l'apport d'aide. En fait, le but de cette application est de pouvoir faire un mariage assez intéressant sur la façon dont on exprime un besoin et la façon dont ce besoin pourrait être alimenté par un salarié d'une entreprise, partenaire. Et pour pouvoir faire ça, il faut que du coup, si on veut que la notification puisse se faire entre l'aidant et le besoin d'être aidé, il faut absolument que l'expression se fasse sur des choses un peu communes. Donc l'application va aider ça, va aider à aller matcher le besoin en compétences avec les potentiels aidants.
D'accord. Et donc, si je comprends bien, ça concerne n'importe quelle entreprise. Ça peut concerner aussi une association, ou c'est d'abord pour les entreprises, parce que tu parlais de... Est-ce que tu as parlé de, dans le mécénat de compétences, de, du fait que ça permet à l'entreprise de défiscaliser cette compétence ressources humaines qu'elle met à disposition? Parce qu'il y a un modèle du coup économique.
Oui. Un modèle économique, c'est-à-dire exactement. C'est-à-dire que si l'aide en compétences peut être reconnue sous la bannière de la donation, il faut absolument que cela se passe soit sous le caractère d'un groupement d'intérêt public, d'une organisation d'éducation ou d'une association. Donc en fait, le salarié d'une entreprise, c'est lui qui est principalement aujourd'hui visé dans le dispositif. Alors non pas que l'intérêt premier de la défiscalisation va pouvoir activer rapidement les leviers, mais on sait pertinemment que le temps des salariés sur leur temps de travail est quelque chose d'assez important pour l'entreprise. Donc le fait de dédier du temps des salariés sur leur temps de travail habituel est quelque chose qui doit à un moment donné être compensé par une aide, ou en tout cas par une reconnaissance.
Et je suis en train d'imaginer que, je ne sais pas si... Il y a des entreprises, certaines, où il y a peut-être des fois une baisse de l'activité.
Oui.
Ou pour certains, en effet, salariés, il y a un peu moins de boulot. Est-ce que ça serait aussi pas une opportunité que ces salariés qui ont moins de travail, ou alors qui sont, viennent peut-être juste de quitter l'entreprise. Enfin, cette idée que ça puisse répondre aussi à un besoin qui serait reconnu par, France Travail, par le fait que, voilà, quand il y a une baisse d'activité, au lieu de peut-être ne pas avoir de choses à te donner, je te donne du temps pour transmettre tes compétences à d'autres.
Ce qui est toujours intéressant dans nos échanges, Philippe, c'est d'arriver à quelque chose que je n'avais pas pensé. Et j'étais persuadé qu'en acceptant ces échanges-là, que j'allais trouver déjà des réponses performantes. Donc là, c'est une idée à laquelle on n'avait pas pensé. Mais c'est vrai que d'étoffer le temps des salariés d'une entreprise, justement par rapport à cette flexibilité, du temps lié à un cahier de commande qui augmente ou qui diminue, et pouvoir optimiser ce temps-là via l'aide sur le mécénat de compétences, me paraît être une excellente idée. Merci Phil.
Alors, bien entendu, c'est juste une idée comme ça, parce qu'il faudra toujours demander l'avis aux salariés en question, mais je pense aussi que dans certaines organisations, il y a peut-être des salariés, certains rapports le montrent, qui ne se sentent pas reconnus à leur juste valeur, ou alors ils ont des compétences qui ne sont pas reconnues par l'entreprise, parce qu'elles ne correspondent pas forcément à la fiche de poste, etc. Est-ce que ce ne serait pas aussi un moyen de valoriser des compétences auprès de salariés, que ça pourrait concourir à leur bien-être au sein de l'entreprise?
Complètement. C'est-à-dire que le premier contact va se faire sur, disons, le bassement, sur les activités qui ont présidé à la création de la fiche de poste qui a permis à l'employé justement d'être employé auprès de cette société-là. Donc c'est bien évidemment ce premier contact qui va être fait.
Alors là, on peut dire à nos auditeurs qu'on est dans une foule très compacte. Voilà, on essaye de se frayer un chemin. On est un peu à contresens, Jérôme, mais voilà, on peut reprendre le micro.
Ouais. Toute la symbolique est là quand même, non? Dans le contresens.
Alors on va peut-être prendre le chemin ici, le trottoir à gauche. Qu'en penses-tu, Jérôme? Voilà. On va être mieux. Super. Donc on peut continuer la phrase.
Donc
que
en fait, la virtuosité attendue aussi à ces nouvelles formes d'interaction entre le monde de l'emploi, le monde de l'entreprise, pardon. Qui va être associé à la montée en puissance des trajectoires des talents, permet aussi de faire découvrir aux salariés des entreprises des nouvelles formes d'activité, notamment liées à la transmission, liées à l'émancipation, etc. Donc il y a de fortes à penser également que certains salariés qui n'avaient pas du tout pensé à ce moment-là de vie dans leur activité salariée, de se découvrir un petit peu différemment. Parce que avoir des activités de community manager au sein d'une PME et d'avoir sur sa semaine un temps privilégié pour aider à la montée en compétence des talents sportifs peut être un exemple parfait sur le fait de faire monter des salariés sur des nouveaux centres d'intérêt. Toi, on peut très bien imaginer, Phil, qu'il peut y avoir des révélations de salariés qui, au moment où la transmission se fait, au moment où le contact avec le talent se fait, pourraient se redécouvrir ou se découvrir tout autre.
Est-ce que là, Jérôme, on n'aura pas aussi un levier pour ce qui concerne la responsabilité sociétale des entreprises ?
Alors, ce que je l'ai peut-être oublié, du coup, dans les trois éléments, je te parlais de fiscalité. Je pense t'avoir parlé de la RSE rapidement.
C'est pas grave, on va en reparler.
Oui, mais en fait, c'est aussi ça, c'est-à-dire que aller exposer ses salariés sur leurs compétences, sur des nouveaux besoins et d'aide aux citoyens du territoire est une façon originale également de monter sur ce fameux score RSE, très attendu aujourd'hui, la responsabilité sociale des entreprises. Et on parle également de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la fameuse GPEC.
Oui.
Je pense que tout ça, là, tout ce que je suis en train d'activer va permettre d'avoir, comme d'habitude, une intention première qui était surtout moi pour les talents.
Oui.
C'est-à-dire comment le talent se révèle, comment le talent se narre, comment le talent se fait aider, comment le talent peut grandir grâce à une nouvelle économie de la reconnaissance. Et je suis intimement convaincu que ce que l'on va créer là comme ressenti auprès des salariés de l'entreprise va créer quelque chose. Alors quand tu es le patron d'une boîte, je pense que tu es aussi rendu à un exercice de stabilité et d'efficacité de ton entreprise. Aller chercher de la défisc, aller chercher du scoring RSE et d'aller chercher des nouveaux moyens pour faire monter tes salariés sur cette gestion prévisionnelle des emplois et compétences peut paraître, je pense, une réponse à moyen terme qui va donner du calibre et de l'intérêt ici à ce projet.
Merci, on était avec Jérôme Grindorge. Est-ce que tu connais le slogan de Radio Badge, Jérôme ?
Non.
Radio Badge, la fréquence de la reconnaissance ouverte. Tu veux l'enregistrer pour nous ?
Ah oui !
On y va ? Radio Badge ?
La fréquence de la reconnaissance ouverte.
Merci à toi. C'était le souffle du terrain. Une émission particulièrement longue, parce qu'on a marché pendant des kilomètres tout le long de la braderie. On a beaucoup échangé avec donc Jérôme Grindorge sur les projets qu'il a menés et les projets qu'il va mener bientôt autour du mécénat de compétences. Voilà, on espère que ça vous a plu d'être au milieu de cette ambiance très particulière de la braderie de Lille. Et n'hésitez pas à contacter Jérôme Grindorge pour en savoir plus sur sa page LinkedIn. Vous le trouverez facilement. À très bientôt sur Radio Badge.
Qu'on affiche, c'est une preuve, une vibe, un déclic, chaque